D'une façon générale, nous avons tendance à penser qu'il y a un moi, c'est-à-dire un individu séparé, qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui pose des actes par lui-même. Un moi qui est responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, voire coupable. C'est une pensée. On pense qu'il y a un moi. En réalité, il n'y en a pas. En réalité, si on y regarde de près, on se rend compte qu'il n'y a pas un tel moi, un tel individu séparé, qui pourrait penser par lui-même, poser des actes par lui-même, ou faire des choix par lui-même. Je vais le définir spécifiquement comme cela. À partir du moment où l'on pense qu'il y a un moi qui est responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, qui donc pose des actes, pense par lui-même, etc., et fait des choix par lui-même, on est amené à croire à plein d'autres pensées qui créent ce qu'on appelle l'histoire de moi, ce qu'on va appeler l'histoire de moi, qu'on pourrait appeler l'ego. Donc je vais séparer le moi de l'ego. Et en fait, tout ce qu'on croit être est en réalité faux. Et tout ce qu'on croit vivre est généralement fondé sur ses pensées, cru à tort. Et toutes nos souffrances, du plus petit mal-être à la plus grande des souffrances, sont toutes dues à des croyances fausses, à des pensées crues et fausses. Et ça, c'est important de le voir. Enfin, je vais poser ça comme un préalable, comme une prémisse, en fait. Hein. Et c'est important de voir que c'est bien comme ça que ça se passe, et surtout de ne pas croire sur parole ce qu'on peut dire. Par exemple, vous prenez la plus grande blessure psycho-émotionnelle que vous ayez ressentie dans votre vie, ou celle qui apparaît là maintenant. Vous vous êtes dit quelque chose. Il n'aurait pas dû faire ça. C'est pas bien. Il est méchant. Il m'en veut. Ou, enfin, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. Mais si vous regardez, à ce moment-là, vous vous êtes dit quelque chose. Et si vous êtes blessé, c'est parce que il y a ces pensées, ce que vous vous êtes dit, qui apparaît. Imaginez, repérez déjà les pensées, les croyances qui font que vous êtes blessé par telle ou telle chose. Ça ne se fait pas, il n'aurait pas dû. Imaginez que vous n'ayez pas pu penser cela, que ces pensées n'aient pas pu apparaître, plus exactement dit. On n'aurait simplement pas pu être blessé. Imaginez que ces pensées soient bel et bien apparues, mais qu'elles aient simplement été vues comme des pensées qui apparaissent, dont il n'y a rien à faire. Et que rien ne se soit accroché à elles, qu'il n'y ait pas eu d'accroche, qu'elles ne soient pas crues. Simplement, elles passent. Elles apparaissent, elles sont vues, elles passent. Ben, vous ne pouvez pas être blessé non plus. Ou seulement le temps, le moment où elles apparaissent et le moment où elles sont passées. Une seconde ou deux. Est-ce que c'est clair ça? Parce que si c'est pas clair, on va s'arrêter là-dessus et on va partir là-dessus.
Par rapport aux blessures, ça peut être un événement, c'est pas forcément les paroles dont on se sent investi, oui. Et à ce moment-là, on dit j'ai pas fait ça, ou j'ai. Voilà.
C'est-à-dire, je m'en veux de ne pas avoir fait quelque chose.
Voilà, voilà.
C'est-à-dire, j'aurais dû faire cela.
Voilà, j'aurais dû me rendre compte.
Voilà, exactement. Alors, Si vous n'aviez pas pu penser, j'aurais dû me rendre compte.
Voilà.
Comment ce serait?
Il y a toujours le sentiment de culpabilité. Oui. De...
Ah, je ne crois pas. Alors, c'est qu'il y a d'autres pensées.
Oui, c'est sûr. Là, ça tourne.
C'est ma faute.
Oui.
C'est encore une pensée.
On se prend tout sur les épaules.
Voilà. Voilà. Parce que vous avez un ensemble de pensées qui vous font dire « Je suis responsable de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Je suis coupable si j'agis mal, si je agis mal. »
Si je ne me suis pas rendu compte. Là,
si je ne me suis pas rendu compte, si je n'ai pas pris la mesure des choses, si, etc. Ouais. Et c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. D'accord ? En réalité, si vous ne pouvez pas penser tout ça,
là,
je vois le sourire.
Oui, mais même si on sait tout ça, c'est quand même difficile de se détacher. De
exact, oui, oui. Ce que je veux pour l'instant prouver, c'est que c'est parce qu'il y a ces pensées et parce qu'elles sont crues qu'il y a par exemple de la culpabilité, que vous vous sentez blessé, qu'il y a de la souffrance. Oui, je vous vois sourire, ça quelque part, vous comprenez. Ah ouais, zut, c'est les pensées.
Mais même si on le sait, c'est très très difficile.
Exact.
Parce que c'est pas une lutte, mais ça revient. Ça revient.
Exact.
On travaille sur soi, et puis pof, ça revient.
Oui. Parce que c'est quasi automatique et que depuis l'enfance, on est habitué à croire dans les pensées sans les remettre jamais en question. Mais si vous prenez par exemple cet exemple-là, j'aurais dû me rendre compte de. Comment ça se fait que vous en êtes pas rendu compte? Et est-ce que vous aviez le choix de vous en rendre compte?
On s'imagine avoir le choix.
Ah, vous imaginez avoir le choix, mais est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que réellement vous avez eu le choix de vous en rendre compte?
Pas trop.
Non. Donc comment pouvez-vous vous critiquer de ne pas vous être rendu compte de quelque chose dont vous ne pouviez pas vous rendre compte? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et cependant, vous croyez, j'aurais dû m'en rendre compte. Alors que vous ne pouviez pas vous en rendre compte. Sinon, vous l'auriez fait. Donc, vous vous culpabilisez en vous appuyant sur une pensée fausse parce que vous ne pouviez pas faire ce que vous pensiez que vous auriez dû faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pâti sur du vent. Je m'en veux de ne pas avoir fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Mais comment? Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez, là, il ne s'agit pas de chercher à se détacher, de chercher à arrêter de penser, mais de regarder les choses telles qu'elles sont. Et quand on les regarde telles qu'elles sont, on se rend compte, ah, mais attends, mais ça n'a pas de sens, c'est pas vrai ce que je dis là. C'est une croyance fausse. Je suis attaché à une croyance qui ne tient pas la route. C'est plus clair comme ça?
Oui, oui.
Et comment c'est maintenant?
Que c'est toujours dur, parce qu'on se sent assez responsable des autres, il y a toujours ce problème qui fait que ça revient, on a beau dire chacun est responsable de sa vie, de temps en temps, quand vous avez des coups durs dans la vie, vous vous dites, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû... On raisonne toujours à posteriori.
Il y a une tendance à vouloir comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais dû le faire, et pourquoi ça n'a pas marché, etc. Oui. Est-ce que ça vous apporte des choses positives?
Ou non.
Non. Des choses négatives?
Ah oui.
Oui. Est-ce que ça change les faits?
Non.
Non.
Pas tellement.
Est-ce que ça sert à quelque chose?
Je pense pas.
Non. Pourquoi continuer? Qu'est-ce qui fait que ça continue? Ça apporte que des choses négatives, rien de positif.
Parce que quelquefois, on a l'impression que la situation est urgente et qu'il faut faire quelque chose.
On peut changer d'exemple.
Pour une personne, on est quelquefois dans l'urgence.
Là, j'ai l'impression que vous avez changé d'exemple.
Oui,
même si vous n'avez jamais nommé l'exemple. Si vous changez d'exemple, on ne va pas pouvoir suivre jusqu'au bout.
D'accord.
Si vous restez sur ce que vous aviez en tête tout à l'heure.
Oui, oui. Là, j'ai changé de... Non, mais quelquefois, les événements font que on ne peut pas s'empêcher, mais on est bloqué sur une idée ou sur une... Qu'on aurait dû faire quelque chose, voilà.
Oui, mais là, vous venez au cas précédent. Oui. Mais vous voyez bien que quand vous regardez, vous restez bloqué, j'aurais dû, mais en réalité, vous ne pouviez pas. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement à penser, j'aurais dû, et à croire, j'aurais dû. C'est-à-dire que quand vous étiez petite, on vous a appris, tu dois, tu aurais dû. Et vous l'avez cru. Et ça continue, par automatisme. Mais peut-être qu'il est venu le moment de regarder de près, mais je ne peux pas. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Je ne pouvais pas, je ne m'en suis pas rendu compte. Ce n'était pas en mon pouvoir. J'y pouvais rien. Je ne dis pas que j'ai raison ou tort. Je ne dis pas que ça aurait été mieux autrement ou pas. Je dis, je constate simplement un fait. Je ne pouvais pas. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et ça ne m'appartient pas.
Voilà, c'est ça.
Je n'ai aucun choix dans le fait de m'en rendre compte ou pas. Quelle que soit la bonne volonté que j'y mette, je ne peux pas. Ce n'est pas dans la capacité de cet organisme. Ça ne l'a pas été. La preuve, ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous sentez que ça peut se soulager comme ça un peu? Pas du tout, ouais. Et c'est ça que je veux souligner, c'est que dans tout ce qu'on dit dans cette perspective non duelle, il ne s'agit jamais de croire sur parole ce qui est dit, mais simplement d'ouvrir des portes. On vous dit, les souffrances sont liées à des pensées crues, il n'y a pas de moi, c'est des prémices. Ne le croyez pas sur parole. Allez voir. Regardez. Par contre, laissez la porte ouverte que peut-être c'est vrai. Et alors, explorons ensemble qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que réellement, il y a un moi ou pas? Est-ce que réellement, on fait des choix? On pense par soi-même? On pose des actes? Ou est-ce que les actes sont posés? Les choix se font? J'ai oublié le troisième. Les pensées arrivent.
Justement, on voit que le moi... que nos pensées, on n'arrive même pas à les maîtriser.
Ben évidemment.
C'est ça, dans le moi.
Oui. Oui. Mais regardez pour vous-même déjà, est-ce que vous pensez les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Quand vous dites j'aurais dû, est-ce que vous pensez il faut que je pense j'aurais dû ou est-ce que simplement la pensée j'aurais dû apparaît? C'est évident quoi. C'est évident, les pensées apparaissent. Et toutes nos pensées ne font que apparaître. Ce n'est pas vous qui pensez. C'est intéressant de savoir que notre ami Descartes a bien écrit « Je pense donc je suis », mais au début, enfin, dans ses premiers écrits, plus tard, il a écrit « Je suis, j'existe ». C'était plus du tout la même chose, d'accord ? Mais nous, on s'est arrêté à « Je pense donc je suis ». En fait, je ne pense pas. D'abord, il n'y a pas de « je », ensuite, les pensées apparaissent toutes seules. Et quand je ne pense pas, est-ce que j'arrête d'être? Ben non, c'est bien que non. Il y a plein de moments dans la vie où il n'y a pas de pensée et où on est plus que jamais. Quand on est scotché par la beauté d'un paysage, quand on se promène en forêt, ou quand on se baigne, ou en mer, puisqu'on est près de la mer, ou etc. C'est évident qu'il n'y a pas de pensée, quoi. Quand on fait la cuisine, quand on est juste avec ce qui est là, quand on prend un enfant dans ses bras, il n'y a pas de pensée. Est-ce qu'on cesse d'être? Ben non. D'ailleurs, essayez un instant d'arrêter d'être, là maintenant. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être, là maintenant? Réponse. Vous êtes. Qu'il y ait des pensées ou pas, vous êtes. Et donc c'est dans l'autre sens, c'est je suis, j'existe. Je suis. Ah, il y a des pensées qui apparaissent, il y a des sensations qui apparaissent, il y a des émotions qui apparaissent, il y a des perceptions qui apparaissent, il y a des actes qui se posent. Je suis, j'existe. Tout ceci apparaît. Et ce je suis, si vous restez avec, vous essayez d'arrêter d'être, vous constatez que vous ne pouvez pas. Il y a conscience d'être, on va dire, il y a je suis, il y a être-té, peu importe quel mot qu'on met. si vous restiez avec ça. Cette étreinte, est-ce qu'elle a un âge? Est-ce qu'elle vieillit avec le temps? Est-ce qu'elle disparaît de temps en temps et qu'elle réapparaît? Ou est-ce que simplement vous en êtes plus ou moins conscient? Est-ce qu'elle change quand vous allez bien, quand vous allez mal? Ou est-ce qu'elle est simplement plus ou moins perçue, plus ou moins ressentie fortement?
C'est-à-dire que même si elle est consciente, qui est claire, limpide, l'expérience n'est pas toujours là. Enfin, des fois, je me laisse porter par souci.
Oui.
Et j'ai beau savoir, et ben, ça importe un peu, quoi. Puis après, ça se passe.
Oui. Mais l'être-té est-elle affectée par le fait que je, entre guillemets, suis emporté?
Non. Non, mais j'aimerais bien
voilà.
avoir la conscience de cette être-té tout le temps.
Oui.
Et ça s'appelle. Est-ce que ça va arriver?
Et ça s'appelle des pensées qui créent une tension, un stress. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, ce serait mieux si. Et il y a refus de ce qui arrive tel que ça arrive maintenant. Ben oui. Et ces pensées-là sont crues. Tu crois réellement, j'aimerais mieux. J'aimerais que ce soit autrement. Tu y crois réellement. T'en es persuadé. C'est faux. Ce n'est qu'une pensée qui, comme elle est crue, ça colle, il y a prise, et à partir de ce moment-là, ça crée une tension, et ça met en arrière-fond, en arrière-plan et presque dans l'inconscient cette conscience d'être. Imagine que tu ne puisses pas penser « j'aimerais ressentir tout le temps l'être-té ». Comment c'est ? S'accrocher à une pensée, ce n'est qu'une pensée. Alors que c'est moins simple qu'il y a de sacré de l'attention. Et que si tu penses pas, si tu pouvais pas penser, si la pensée j'aimerais tout le temps ressentir tout le temps l'être-té n'apparaissait pas, est-ce que l'être-té est loin? Si je suis prise par la pensée j'aimerais ressentir l'être-té tout le temps, je ne la sens plus l'être-té. Donc, autrement dit, cette pensée a un effet contre-productif. Elle m'éloigne de ce que je cherche. Ça n'a juste pas de sens.
Après, il y a ces grands. La vie et tout ce que ça. Tous ces mouvements. C'est ce qui importe, quoi.
Oui, mais oui, c'est normal. Et alors ? c'est pas un problème.
C'est la pensée, j'aimerais faire une histoire plus tranquille.
Voilà, j'aimerais, je veux que ce soit autrement que comme c'est.
Qui amène la difficulté,
oui, mais je suis. Eh oui, il y a un refus. Et la pensée de refus, elle n'est pas vue pour ce qu'elle est. Et, tiens, tu crois réellement que ce serait mieux si. Et en fait, tu te rends compte là tout de suite que s'il n'y avait pas cette pensée, ce serait déjà beaucoup plus calme. Et ça, on a tous tendance à croire ce sera mieux quand. Alors j'aimerais tant que, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à refuser, à être dans le refus de ce qui arrive tel que ça arrive. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très clair. Il y a des refus, quoi. Le refus que ce soit comme ça, j'aurais dû me rendre compte que, sous-entendu, je refuse de ne pas m'en être rendu compte, je refuse la situation telle qu'elle apparaît. Je refuse. Ça refuse. Il y a refus d'eux. On va continuer à employer je, me, moi, etc. parce que c'est des facilités langagières. Simplement, quand moi je l'emploie, il n'y a pas l'idée d'un moi individu séparé qui s'approprie ça, quoi. Ce que je dis émerge spontanément sans qu'il y ait quelqu'un qui le pense, qui le construise, qui, etc.
Alors, est-ce qu'il faut laisser arriver les événements sans porter de jugement, sans...
Vous ne le pouvez pas. Vous ne le pouvez pas. Ça, c'est basé sur l'idée qu'il y a un moi qui va pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de moi. Est-ce que vous pouvez vous imposer de ne pas juger? Les jugements apparaissent, ce sont des pensées. Vous ne pouvez pas. Donc c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Même pas la peine d'essayer. Par contre, puisque je ne peux pas empêcher les jugements d'apparaître, je ne porte pas la responsabilité des jugements qui apparaissent. Un jugement apparaît. Et j'ai pas besoin de juger le fait que je juge. J'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Un jugement apparaît. Ah tiens, il y a un jugement qui est apparu. Alors le regard peut se porter dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'il y a un jugement qui apparaît? Est-ce que c'est vrai ce jugement? Est-ce que c'est intéressant d'y croire? Alors le regard va pouvoir se porter dessus. Et le jugement est vu comme fallacieux, en fait, hein, trompeur, et il s'effondre. Les choses ne changent pas parce qu'on veut qu'elles changent, mais parce qu'elles sont vues comme étant fausses. C'est un effet secondaire. C'est-à-dire que on ne se met plus à agir dans le but de, pour obtenir quelque chose, parce que je ne sais pas quoi, mais simplement par amour de la vérité, par curiosité, par plaisir de faire ça, par et pas pour. C'est plus une stratégie.
Est-ce que ce n'est pas aussi le sentiment qui apparaît qu'on est dans l'erreur? Est-ce que c'est un sentiment qu'on a qui apparaît, quelque chose de...
Ça dépend des cas, ça, je ne sais pas, il faudrait être plus précise.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas laisser apparaître ces sentiments?
Mais tout il faut est de trop. Tout il faut de ce type se fonde sur l'idée qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et ce quelqu'un, moi je ne le vois pas. Il est où ce fameux moi qui pourrait faire quelque chose, qui serait responsable de ce qui se passe? Il est fait de quoi? Regardez, est-ce que vous en trouvez un? On a déjà vu que les pensées apparaissent d'elles-mêmes, sans personne pour les penser. Regardez le reste. Est-ce que Mais déjà, est-ce que vous voyez un moi? Est-ce que vous avez déjà vu un moi un jour, quoi? Moi, jamais. C'est comme le Père Noël. On ne l'a jamais vu. Pour cause. On devrait plutôt parler du Père Fouettard, pour ceux qui connaissent. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on a vu que les pensées apparaissent. Est-ce que vous faites des choix? Est-ce que vous avez déjà choisi quelque chose dans votre vie? Regardez de près. Ou est-ce que les choix se sont faits d'eux-mêmes à un moment donné, compte tenu des circonstances, des conditionnements, des préférences qui sont en vous liées à votre personnalité sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir? Quel choix avez-vous déjà fait? Explorons ça. Ou croyez-vous avoir déjà fait?
Les choix qui s'imposent, en fait.
Les choix s'imposent, voilà. Les choix, à un moment donné, se font. Et j'ai pu me tourner le problème dans la tête pendant des jours et des semaines, voire des mois. À un moment donné, pouf, la décision est prise. On croit que c'est moi qui ai choisi. Non, ça s'est fait.
Un peu effrayant.
Ah, un peu effrayant. Ouais. Ah, et pourtant ça a toujours été comme ça. Comment ça peut être effrayant alors que ça fait depuis que t'es né, c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait peur?
Bah, c'est peut-être de s'en rendre compte. Ouais. Tant qu'on s'en rend pas compte, finalement.
Moi je trouve ça très reposant. Waouh! J'ai plus besoin d'essayer de choisir. Toute tentative de faire un choix est de trop. C'est beaucoup plus tranquille. Les choix se font.
Mais dans ce cas-là, l'être, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas de choix, tout se fait. Qu'est-ce qu'il fait là, en fait?
Bah, regarde. Reste avec cet être-té.
Ouais. Pourquoi il est là et pas ailleurs? Enfin,
là et pas ailleurs.
Le regard qu'on est, en fait, je sais pas.
Oui. Nous sommes un cas exact.
Mais pourquoi on est là, quoi?
Mais qui compte?
Ce regard,
je sais. Ce regard, il est là.
Ouais.
Pourquoi il y a un mur?
Oui.
Il est là. Hein. Quand les loups, on dit, c'est parce que c'est une maison et tout. Mais le regard, il est là. Pourquoi il y a un univers? Il est là.
Et c'est lui le choix?
Pardon?
C'est lui le choix?
Non. Simple regard. Mais regardez, cette incapacité à arrêter d'être vous renvoie automatiquement à l'être-té, et cette être-té, est-ce qu'elle pose des choix? Est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle pose des actes? Non. Vous le savez, hein, quand vous regardez. Vous le savez. Dès que vous regardez, vous le savez.
C'est une énigme, en fait. On ne peut pas aller plus...
On peut aller un peu plus loin.
Oui.
L'être-té est connu.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a connu? Il vaut mieux continuer à le regarder.
Oui.
Qu'est-ce qu'il connaît, l'être-té? Qu'est-ce qu'il connaît tout ce qui peut être connu? Mental est soufflé, hein?
Ouais, complètement.
Complètement soufflé. Donc c'est pas la peine de chercher avec la tête.
Je vois pas de réponse à...
Non, il n'y a pas besoin d'en chercher une.
Il n'y en a pas, en fait.
Oui, non. Le regard. Il y a l'arrêter d'être, il y a l'être-té.
Mm-hmm.
L'être-té, elle est là, elle est regard.
Oui.
Je suis un regard. Je sais que je suis un regard. Qu'est-ce qui sait que je suis un regard?
C'est comme une conscience, non?
Bon, on peut appeler ça comme on veut.
Oui, il y a quelque chose qui perçoit.
Il y a quelque chose
Mais...
qui est indéfinissable. Et qui cependant est indubitable. On sait qu'il y a quelque chose.
Oui.
Et on n'y a pas accès.
On ne sait pas, on peut pas savoir d'où ça vient. Et
on
ne
peut
que
pas
c'est
savoir,
là.
Mais on sait que c'est là. On ne peut pas aller plus loin que là.
D'accord.
Et là, jusque là, on peut aller.
Et chacun de nous peut percevoir ça, et ce quelque chose, on en a chacun un, ou c'est le même?
Regarde, Marie-Pierre, regarde. Il y a l'idée que c'est séparé, il y a l'idée que c'est incarné dans un corps. Est-ce que ça vient?
Ouais.
Est-ce que ça vient? Celui-là qui connaît l'espace, le temps, l'univers tout entier, tout ce qui peut être connu, est-il lié à un corps?
Ouais, c'est... J'aurais tendance à percevoir que c'est la même chose, mais c'est difficile à l'accepter après.
Que c'est la même chose?
Qu'en fait, on pourrait dire que
c'est
de la même source, en fait.
Oui.
C'est là où on trouve l'unité, en fait.
Oui, on peut le dire comme ça. C'est l'unité, c'est ce qui est. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux.
D'accord.
Mais ça se manifeste sous des formes innombrables.
D'accord. Mais il y a un décalage, je trouve, entre ce qu'on perçoit et après ce qu'on vit.
Il y a un décalage entre ce qui est et les croyances.
Ouais.
Je suis ce corps, je suis cet organisme, je suis mon histoire. Ouais. Et bien oui, on est happé par l'existence, l'existentiel, cet organisme. Mais en réalité...
Ouais. Et si on n'est pas happé, si on arrive à sortir de cette réaction, oui.
Voilà. T'as compris maintenant. Là, tu comprends. Ça arrive. Ça arrive.
Alors, en fait, c'est les pensées qui empêchent cette perception, en fait.
Des pensées crues.
Ouais.
Il faut qu'elles soient crues. Si elles ne sont pas crues, elles ne font que passer comme tout le reste. Mm-hmm. C'est-à-dire, là maintenant, tu ne perds pas la conscience de l'organisme Marie-Pierre. Mm-hmm. Et cependant, tu es complètement consciente que tu n'es pas du tout limitée à ça. Et que ce que tu es, c'est ce qui est en amont de tout ce qui peut être connu.
Ouais.
Là où le mental n'a pas accès, là où il est soufflé complètement. Et l'organisme est encore là. Mais l'organisme est vu comme apparaissant au sein de ce qui est.
Ouais, il est la même chose en fait.
Il est la même chose que ce qui est exact. Il n'en est pas séparé. Il apparaît au sein de ce qui est en tant que ce qui est. Enfin, il est ce qui est et il apparaît au sein de ce qui est. Alors que ce qui est... Ce qui est avant tout ce qui peut être connu, n'apparaît pas.
Ouais.
Ah, toi, tu le sais. Comment tu le sais? C'est évident.
Oui.
Toi, quand tu le sens, quand tu l'es avec, c'est une évidence. Mm-hmm. C'est indubitable, c'est certain, c'est sans aucun doute.
Oui. C'est vrai qu'on ne se pose pas de questions. C'est...
Ah, il n'y a pas de questions, oui. Il n'y a pas de pensée. Ce n'est pas des pensées, c'est une connaissance pure. Voilà. Et ce que affirme la perspective non duelle, c'est une perspective. Toi, tu changes de perspective. Au lieu d'être collé à l'organisme, le corps mental,
voilà, tout à fait.
L'organisme n'est pas séparé de ce que je suis et il vit en ce que je suis. C'est un changement de perspective. Et ce que dit cette perspective, c'est que je suis cela. Ce qui ne peut pas être nommé. Ce qui ne peut pas être connu. Ce qui est là avant tout, avant. Tout ce qui peut être... Avant, c'est un mot. Avant tous les mots.
l'origine, quoi.
Avant l'origine.
Oui.
Enfin, les mots vont tous tromper.
En fait, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, par rapport au... pourquoi ça revient, pourquoi les pensées reviennent, en fait, c'est dû à, au conditionnement de l'éducation qu'on a reçue, en fait.
Et ça revient.
Et si on prend conscience de ce conditionnement, ça le...
Il s'effondre.
Ouais,
s'il est vu pour ce qu'il est, il s'effondre. Moi, je dis, je ne veux pas beaucoup le voir, mais d'autres emploient le mot « écouter Thierry », pas beaucoup de « être avec ». Peu importe, on peut changer le mot, peu importe, constater.
Ouais.
Dès que c'est vu pour ce que c'est, un simple conditionnement qui n'a ni queue ni tête, qui est tiens, qui, une empreinte, ben, ça se défait, ça s'effondre. Et quand tu es en contact avec toi, quand tu es avec ce qui est, que deviennent l'idée d'un moi, la culpabilité, la responsabilité, le ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Là. Tout ça s'effondre. Hein?
Ouais.
Tout ça s'effondre.
Ça tient plus, c'est illusion.
Ça tient plus, voilà. C'est vu comme illusoire. Voilà. C'est vu comme illusoire. Ça tient plus. Mais le corps continue à respirer, le cœur continue à battre, le sourire continue à apparaître, les mains continuent de bouger. Ça continue à fonctionner.
Ça n'empêche pas d'avoir des actions.
Ben non. C'est d'ailleurs, tu es en train de bouger tes mains. Et tu es en train de parler. Ça continue. Ça continue. Et quand on va partir à manger, etc., tout continue. Et je suis là en face de vous en train de vous parler. Ça continue. Mais c'est su-illusoire.
C'est étrange. En fait, il y a un travail d'attention à faire en soi par rapport aux pensées qui arrivent pour vraiment pas perdre l'être-té, la conscience de l'être-té.
Pour jamais. Tu es en train d'essayer de monter une stratégie, tu vois, tu vas perdre, c'est d'office. t'es déjà prise par l'idée. Tu vois, que je dois faire quelque chose pour garder ça, mais tu l'es.
Ouais,
tu peux pas le perdre. Et c'est un jeu. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'à un certain moment, oh, ça se cristallise, et à ce moment-là, à un certain moment, ça se décristallise. C'est juste un mouvement. Il n'y a pas à en faire toute une histoire. C'est pas grave. Comment ce qui se passe au niveau de l'illusion pourrait-il être important?
Ouais.
Enfin, maintenant, ouais. Une fois que tu as vu que c'est illusoire, vraiment mesure la conséquence. Ouais. Puisque c'est illusoire, rien de ce qui s'y passe n'est réellement, de façon définitive, importante. C'est important pour celui qui le vit. Et évidemment que c'est important qu'il y a à en tenir compte, sinon je ne serais pas là. Et c'est illusoire, donc ça n'a aucune importance en soi.
Et dans le cas de la douleur, par exemple, quand on est malade ou qu'on a la perception de la douleur,
c'est pareil.
Parce que
tu n'es pas séparé de la douleur, elle apparaît en toi, tu es la douleur et elle est illusoire. C'est une expérience.
Ça devient plus difficile, je trouve.
Oui, je sais. C'est une simple expérience.
En fait, elle est illusoire, mais c'est pas pour autant qu'on la sent plus.
Évidemment.
Voilà, d'accord.
Elle est pleinement ressentie. Et elle épuise le corps. Si elle est forte, elle épuise le corps. Elle fatigue le corps. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'existence.
D'accord.
Évidemment que si un cachet peut la soulager, pas prendre le cachet. Tu te blesses, ça saigne, c'est pas parce que tout est illusoire que tu vas laisser pisser le sang et laisser mourir, ça n'a juste pas de sens. Même dans les films, ils soignent les blessures. Tu vois ce que je veux dire, c'est, ça n'enlève rien à cette réalité existentielle. Mais elle n'est que existentielle, cette réalité, elle n'est pas définitive.
Ouais, du coup, on ne l'incorpore pas. Elle reste vraiment.
C'est les deux, ça varie, ça change. Enfin, chez moi en tout cas, je ne sais pas ce que chez tout le monde. Il arrive un moment où tout ça est tout le temps vu en permanence comme parfaitement illusoire tout le temps. Moi, c'est pas là que j'en suis. Moi, il y a des mouvements. Et ces mouvements sont juste des mouvements. Par contre, ils sont, dans l'immense majorité des cas, et presque à 100%, pas du tout pris au sérieux. C'est-à-dire à tout moment peut apparaître le rire au moins intérieur. Mais la colère peut apparaître, la tristesse peut apparaître, l'amour peut apparaître, la joie peut apparaître, tout. La douleur peut apparaître, évidemment. Le plaisir aussi, tout.
Et on ne maîtrise rien.
Évidemment. Mais quelle liberté! C'est la vraie joie, c'est ça. C'est que tu es responsable de rien. Ça ne veut pas dire que tu es irresponsable.
Non coupable.
Non coupable, exactement. Ça ne veut pas dire que tu es irresponsable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre des responsabilités, que les responsabilités ne vont pas se prendre. Ça n'a rien à voir. Évidemment qu'une responsabilité saine va être complètement prise en permanence. Et sinon, pareil, je ne serais pas là. Ce n'est pas du jugement foutisme. Tu le sais, de toute façon, tu le sais. Quand tu regardes, tu le sais. C'est une totale liberté. Un total lâcher-prise. Il n'y a pas de moi qui puisse faire quelque chose. Donc il n'y a pas l'idée que je dois faire quelque chose ou que je ne dois pas faire quelque chose. Ça arrive, ça se fait. C'est la vie. C'est la vie qui s'exprime. Et la vie, elle prend naturellement soin d'elle-même et de ce qui apparaît. C'est naturel.
Il y a des situations qui se présentent et il y a des actions qui se font.
Qui se font. Et qui ne sont plus conditionnées.
On n'est pas sans action, mais on est avec action.
Voilà. Quand le sage agit, il n'agit pas. C'est dans le Tao Te Ching. C'est exactement ça. Ça agit. Ça se fait. Les choses se font. Les choses arrivent. Les actes sont posés. Mais comme il n'y a plus l'idée que c'est moi qui les pose et que je dois faire attention de la manière dont je le fais et dont je ne le fais pas, etc., etc., comme tout ça s'est effondré, tout peut apparaître. Tout peut apparaître. Et le nombre de fois où je suis surpris de ce qui sort de cet organisme que je n'avais jamais fait avant, mais ça se fait. Voilà. Oh tiens, waouh. Je ne savais pas que je savais faire ça. Il n'y a pas de jugement. J'aurais pas dû. Ah, j'aurais dû. Oulala, mais qu'est-ce qu'il va penser? Oulala. Peut-être ça peut arrêter, mais si, quand ça apparaît, ce genre de choses, c'est vu comme fallacieux. C'est pas, ça s'efface tout de suite. Ça ne peut pas durer. Ça ne tient pas. Ils se sont dit, mais enfin, tu te rends compte ce que tu as fait? Ça s'est fait. Qu'est-ce que j'y peux?
Tu peux peut-être pas répondre aux gens, mais.
Mais je peux te dire que si, des fois c'est ce qui se répond. C'est pas moi qui le répond. Parfois je dis, ouais, c'est vrai, waouh, c'est incroyable. Parfois je dis, ah, qu'est-ce que j'y peux? Mais bien sûr, mais si c'est ça qui sort, c'est ça qui sort, il n'y a pas de contrôle, tu vois. Enfin, pas de contrôle, il peut apparaître aussi le contrôle.
Ouais, il y a le contrôle qui peut apparaître.
Mais bien évidemment, mais c'est juste amusant de voir qu'il y a le contrôle qui apparaît. Et puis, on joue le contrôle ou on ne le joue pas. Ça dépend. Il est joué, il n'est pas joué, c'est pas moi, ça se joue. C'est une totale liberté. Mais c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi, c'est pas vrai du tout. Si un enfant traverse la route et qu'il y a une voiture qui arrive, il est évident, il va être bloqué. Tu comprends? C'est juste pas possible, on n'a pas besoin d'aller réfléchir et penser à je sais pas quoi, c'est évident qu'on va bloquer le gamin tous. Tous. Tous, de façon naturelle, on prend soin. Mais on a l'idée qu'on doit acquérir certaines capacités pour que ce soit fait correctement et que et c'est faux. La vie s'en charge très bien sans nous. Regarde la nature, là. Parce qu'elle a besoin de nous pour pousser naturellement. Quand il y en a, on ne cherche pas forcément la réponse. Et petit à petit, tout ce... Comment appeler ça ? Tous ces mécanismes mentaux ont de moins en moins d'importance, s'effondrent de plus en plus. Et à la place, se déploie de plus en plus cette étreinte, cette tranquillité, cette paix, ce sourire, l'amour, la paix, la joie, l'ouverture.
Et est-ce que ça a un impact par rapport à... C'est-à-dire, est-ce que le fait de ressentir cette être-té pleinement, constamment, est-ce que ça a un impact sur les autres dans mon entourage?
Ça a un impact sur toi, là, tout de suite?
Oui.
Mais l'impact n'est pas recherché. Ça en a un, ça en a pas, des fois ça en a, des fois ça en a, j'en sais rien, je m'en fiche.
Oui, c'est pas important.
Il n'y a pas, il n'y a aucune recherche, la recherche s'effondre. Il n'y a aucune recherche d'obtenir quoi que ce soit, ou d'avoir quoi que ce soit, que quoi que ce soit se produise, ou ne se produise pas. Et quand il y a encore des restes de recherche qui apparaissent, pareil, c'est vu pour ce que c'est, ça s'effondre.
Ça ne mène pas à fuir devant ces peurs.
Ah non, au contraire, ça les épouse. C'est amusant la peur.
Mais si par exemple, en fait, tout est correct, tout est bien, quelque part, tout est parfait, mais est-ce que, en disant cela, je ne suis pas amené à fuir?
C'est pas une pensée. C'est un vécu, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que parce que tout est en soi parfait, il n'y a rien à faire au niveau existentiel. Absolument pas, ça n'a rien à voir.
Tu as l'air de dire que bon, je prends une décision, je n'ai pas à la juger parce que les corps...
Non, parce que je prends une décision, je n'ai pas à la juger, ce sont des pensées qui s'appuient sur l'idée d'un jeu et sur un conditionnement, sur une stratégie pour. Ça fonctionne pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, enfin. Tant que ça fonctionne comme ça, tu es pris par les choses. Tu es juste pris par une idée de plus. Je ne dois pas juger les jugements. Tu vois, je ne dois pas juger d'être pris par une pensée. C'est juste une pensée de plus. C'est une évidence qui s'exprime.
Je sais que je dois faire quelque chose, je sais parce que je suis conditionné comme ça, on me l'a dit, je ne le fais pas, par peur de des conséquences. Est-ce que, bon, d'après ce que tu dis, c'est correct, puisqu'on n'avait pas la possibilité à ce moment-là de réagir différemment. Mais est-ce que justement, je ne fuis pas, est-ce que je ne refuse pas d'affronter la situation à ce moment-là?
Je ne sais pas si tu parles de toi ou si tu parles de ce que je vis moi. Si tu parles de ce que je vis moi, ça ne se présente pas comme ça. Si tu parles de toi, à partir du moment où tu continues à considérer qu'il y a un moi, ça va, un jour ou l'autre, le regard devra se porter dessus pour que ce soit solidaire. Voilà. Je vais dire comme ça. Et ce que je propose à ce moment-là, c'est de regarder qu'est-ce qui te fait dire « je sais que je dois le faire », qu'est-ce qui fait dire « j'ai peur de le faire » ou « c'est mieux si je ne le fais pas » ou enfin, etc. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont les pensées qui sont agissantes parce que crues? Enfin, les pensées, c'était que des mots, je suis désolé, j'ai un peu de mal à redescendre là. Mais comment ça se passe? Un exemple concret en tête.
Supposons que j'ai un examen médical à passer.
Oui.
Et que je
rien prouve que tu dois le passer. Alors là, vraiment, rien prouve que tu dois le passer.
La connaissance scientifique classique te donne des échéances comme ça.
Oui.
Donc soit je m'y soumets, soit je m'y soumets pas. Si je m'y soumets, pour moi c'est un truc, c'est une grande épreuve à chaque fois.
Oui.
Et donc.
Ah, ne le fais pas, t'es pas obligé. T'es absolument pas obligé.
Voilà, donc je sais pas si.
Tu as le droit de laisser mourir cet organisme, tu as le droit de le laisser.
Laisser mourir, parce
que je sais pourquoi, tu vois ce que je veux dire.
Mais je veux dire, il y a des moments où le stress est tellement important. Que je me demande si c'est pas pire, si tu veux, de le faire, parce que ça risquerait de générer encore plus. Alors, voilà ce que c'est moi qui me aussi.
Mais tout ça a besoin d'être regardé de près pour que tu saches. Si tu veux, pour l'instant, tu es pris par les pensées des deux côtés. Mmh. Tu es pris par la peur de le faire et tu es pris par la peur de ne pas le faire.
Oui,
c'est ça. Ouais. Donc là, tu es pris dans les. Des deux côtés, tu es coincé, quoi. Tu n'as pas de solution satisfaisante dans l'existentiel. La seule solution, je dis ici, c'est regarder, mais qu'est-ce que c'est ces peurs qui s'agitent là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment ça vit en moi? La peur de faire l'examen, la peur de ne pas le faire. Comment ça s'agite? Qu'est-ce qui me pousse à faire l'examen? Qu'est-ce qui me pousse à ne pas le faire? Quelles sont les pensées crues qui poussent à le faire? Quelles sont les pensées crues qui poussent à ne pas le faire? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la science actuelle dit qu'il faut le faire. Ouais, ok, c'est la science actuelle. Et puis, qu'est-ce qui prouve que ce sera mieux quand je l'aurai fait et que... Enfin, je ne sais pas de quoi tu souffres, toi, je veux dire. On n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien.
Que je vite, en ce moment, c'est...
Hein? Et il y a la peur parce que l'examen a priori n'est pas très agréable à vivre. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a de terrible dans un examen désagréable? Qu'est-ce qui fait que on choisit de ne pas le faire, enfin on aurait tendance à ne pas le faire? C'est-à-dire qu'il y a une peur de la souffrance, de la douleur, pardon, ce coup-ci. Hein.
Spécialement, ce serait plutôt du résultat.
Pardon?
C'est plutôt du résultat.
On a peur du résultat.
Mais alors, dans ce cas-là, forcément, si je ne fais pas l'examen, j'ai peur, parce que si je n'ai pas le résultat, et puis, tu vois, je reste dans l'angoisse complète. Je dis, tu vois, mais tout ça, c'est lié à des pensées crues des deux côtés. Tu vois? Et. Là, je t'inviterais à revenir vraiment au corps. Qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Là, maintenant, tout de suite, quand tu penses à tout ça.
Une peur terrible qui est au niveau du ventre.
Alors, juste la sensation physique. Oui. Peur, c'est une interprétation.
Oui, c'est une sensation physique. Oui.
Qu'est-ce que c'est la sensation physique dans le corps? Tension, pression, torsion, piqûre, brûlure, froid, chaud, frémissement. Enfin, les mots simples.
Une pression.
Une pression dans le ventre.
Oui.
Douloureuse?
Non.
Non.
Non, c'est un inconfort.
Rien de grave n'arrive. Autre chose? Rien de spécial.
Non, rien de spécial.
Ok. Donc juste, même pas une douleur, une pression dans le ventre. Tu peux rester avec.
La peur, oui.
Non, pas la peur, la pression dans le ventre. Tu penses qu'il y a de la peur. La peur, c'est créé par des pensées. Déjà, il faut une pensée de futur. Si je ne fais pas l'examen, alors. Si je fais l'examen, alors. Sinon, il n'y a pas de peur. C'est une pensée de futur, déjà. Puis il y a plein d'autres pensées associées à la peur. La peur, c'est construit par des pensées. En réalité, il y a une tension dans le ventre, une pression dans le ventre. C'est tout.
Oui, voilà.
Et la pression dans le ventre, tu peux rester avec.
Oui, c'est vrai.
Et tu l'as étiqueté peur liée aux pensées qui sont associées à tout ça, enfin qui sont là autour.
Mm.
Mais si tu restes juste avec la tension dans le ventre, la pression dans le ventre.
Oui, mais ça, c'est juste quelque chose qui est récurrent au moment où je pense,
voilà.
Au moment où la peur s'installe.
C'est déjà trop. À partir du moment où il y a les pensées autour de cet examen.
Mm.
Et autour de la maladie.
Oui.
Donc, si tu restes avec la pression, et est-ce que tu es malade ou est-ce que tu as peur d'être malade? Est-ce qu'il y a une maladie avérée, je veux dire?
Oui, j'ai eu un cancer du côlon il y a 7 ans.
Mm-hmm.
Donc, j'ai été opéré pour une chimiothérapie. Les choses se sont bien passées. J'ai refait un examen il y a 3-4 ans après, c'était correct, il n'y a pas de problème. Et normalement, tous les 5 ans, on devrait refaire un examen. À chaque fois, je repousse, et donc...
Par rapport du diagnostic.
Voilà, exactement. Donc, il n'y a rien de particulier à moi par rapport à ça. Quoi. Donc, je me demande à chaque fois si je dois encore me soumettre à ce genre de truc, mais voilà, donc, ça crée une peur à chaque fois,
Ben oui, et puis si tu le fais pas, t'as peur qu'il y en ait un pic, et après tu t'y prennes trop tard, et si jamais tu le fais, t'as peur qu'on dise oui, il y en a un, il faut s'en occuper.
Oui,
bien sûr, c'est juste pas possible que ce soit autrement.
Voilà.
Parce que c'est des pensées qui apparaissent. Mais ok, arrête juste avec la pression dans le ventre, que toi tu étiquettes peur. Juste la pression dans le ventre, tu vois, sans les pensées. Rien de grave n'arrive, tu peux vraiment rester avec. Et si simplement tu restes avec cette pression dans le corps, dans le ventre, à un moment donné, il y a d'autres pensées qui vont émerger. Pas celles que tu connais, pas des pensées inconnues non plus, mais pas celles qui sont les premières vues.
une idée qui vient là. Reste avec l'attention juste. Peut-être qu'il y en a pas. Mais tu vois, quand tu restes avec cette pression dans le ventre, finalement tu es tranquille alors.
Oui, à ce moment-là, oui.
Après, il y a un mécanisme qui dit « Ah, c'est de la peur. Ah, il faut que je m'en occupe. Ah, il faut que je prenne une décision. Ah, il faut que je sache. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je décide. » Tout ça, c'est en trop. C'est pas la peine. Si tu es juste avec la pression dans le ventre, voilà, en même temps, tu es tranquille.
Sincèrement avec ça, sans vraiment aujourd'hui, maintenant, savoir quoi faire. Moi, je ressens comme ça.
Oui. Oui, sauf que j'ai encore en amont, tu vois, c'est ne pas rester avec l'hésitation, c'est rester avec juste la sensation physique. Parce que l'hésitation, elle est connue, on nage dedans, tu vois. Quand on est comme celle-là, aussi forte que celle-là, on est vraiment pris par ça. En fait, elle masque d'autres choses. Déjà, la tranquillité de fond, par exemple, si j'irais juste avec la pression dans le ventre, il y a une tranquillité de fond qui est là. Et puis, les pensées qui réellement font que le choix ne peut pas se faire. L'identification à l'organisme. Par exemple, la peur de mourir, l'idée de mort, le refus de la maladie, tu vois, tous des trucs comme ça qui en fait ne sont pas simplement vus pour ce que c'est. On peut rester avec l'hésitation. Et on peut aussi simplement revenir à la sensation et rester avec la sensation. Tout est possible, en fait, ça dépend des fois, des grades.
Est-ce qu'on peut, en restant justement avec la sensation, est-ce qu'à un moment donné, la réponse est claire, c'est-à-dire qu'il dira soit faire ses examens, soit pas les faire. Est-ce que ça permet un mûrissement
Ça n'a pas d'importance. Peut-être que juste en restant avec la sensation, l'éveil va se produire. Tout ça va disparaître. Peut-être qu'en restant avec la sensation, il y a un choix qui va se poser. Peut-être qu'il y a des pensées qui vont se révéler. Peut-être que j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce qui est là, c'est la sensation. Le reste, c'est un discours mental qui est cru et qui est fallacieux.
Voilà,
qui crée de la souffrance.
Et le fait de revenir à la sensation, ça cache en fait cette agitation.
Qui va réapparaître.
Et est-ce qu'il peut chaque fois revenir au fait de ressenti?
Mais c'est pareil, si tu en fais une stratégie, tu vois.
Oui,
c'est...
faire une stratégie. Ouais.
Tu peux.
Voilà. Est-ce que la solution ne s'impose pas?
Et le jour où tu n'arriveras pas à appliquer cette stratégie, tu diras « je ne fais pas bien ce que je fais, je m'y prends mal, et ça va créer un autre problème. »
Là, présentement, moi, j'ai très mal dedans. Je suis très mal dedans et je me vois en train de me dire « oh là là, le travail, il faut faire ci, faire ça. » Et puis revenir à la sensation de douleur.
Oui.
Et faire cet aller-retour, et alors j'y reste un moment, bon, c'est pas complètement supportable, mais c'est voilà, si je peux le qualifier. Des fois, je ne le qualifie de rien du tout, c'est juste une sensation. Des fois, ah, ça ne fait pas. Ah, et voilà, je fais des arguments. Et puis après, je reviens à... Il y a sans arrêt cet aller-retour.
Oui. Comme je disais tout à l'heure, si tu coupes et tu fiches le sang, prends soin. Tu vois, si tu as mal aux dents, prends soin de tes dents, quoi, je veux dire. Ou pas, après tout, faut voir. Tu peux aussi mourir d'une septicémie ou d'une infection dentaire, hein, après tout. L'univers ne va pas t'en offusquer.
Il y a des meilleurs. Je sais. Je me pense.
L'expérience, c'est généralement que quand on a mal aux dents et que ça dure, il vaut mieux s'en occuper. Mais bon.
Moi, la solution.
Ce que je veux dire, c'est généralement, ça ne s'arrête pas tout seul. Mais c'est qu'une expérience, t'en savoir. Tu avais commencé quelque chose.
Oui, je pensais que justement, si lâche ses pensées, la solution va venir d'ailleurs. Et...
Le choix va
se faire. De s'imposer à lui et
oui.
Sans avoir à
choisir. Et de toute façon, pour l'instant, le choix, il est déjà fait. Je ne fais pas l'examen, puisque en ce moment, il ne fait pas l'examen, par exemple. Donc le choix, il se fait de seconde en seconde.
Est-ce que s'il lâche l'autre pensée, la solution arrive comme ça? Elle peut arriver.
Si,
c'est
pas une solution.
Il aura trouvé, lui, sa solution d'être tranquille. C'est le choix qui va venir.
Le choix va se faire à un moment donné, le choix se fera.
Voilà.
Oui. Mais de toute façon.
À ce moment-là, on ne peut pas rechercher des signes, par exemple.
Ça ne sert à rien, c'est pas la peine. De toute façon, le choix va se faire. Avec ou sans torture mentale.
Un peu subtil. Quelquefois, les choix qu'on ne veut pas faire arrivent par un petit signe ou par
des choses. Et à un moment donné, le choix se fait parce que le signe est pris pour réel, pour un vrai signe que j'ai
voulu. Et là, on est tranquille.
En fait, le choix se fait.
Ouais.
En fait, le choix se fait. À un moment donné, le choix se fait, avec ou sans torture mentale, avec ou sans signe. Ouais. Un jour, ça se fait, c'est tout. C'est pas la peine de se torturer. Mais dans la vie, regardez, dans la journée, le nombre de choses qui se font d'elles-mêmes, sans que personne ne s'en soucie, le nombre de fois où le corps bouge, naturellement, spontanément, quoi. Et même, et plein de choses se font spontanément, naturellement, dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu viens de parler, est-ce que tu as choisi de parler ? Ça s'est fait. Est-ce que tu as choisi les mots que tu as prononcés ? Ça s'est fait. Ça se fait naturellement, spontanément. Est-ce qu'il y a un moi qui a décidé, je vais dire quelque chose maintenant et je vais le dire de telle manière ? Non. Ça se fait. En réalité, c'est tout le temps comme ça. Mais on croit que il y a un moi qui fait, qu'il y a un moi qui décide. Oh, j'ai pas choisi non plus, tiens. Sensation ?
Oui, pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, ça va.
Oui.
Mais ton énergie a changé. Quelque chose qui a changé.
Oui, mais c'est ça, c'est des allers-retours souvent comme ça.
Il y a quelque chose qui a changé. Il y a un je ne sais pas, j'ai envie de dire. Il y a un je ne sais pas. Tranquille. Parce qu'on peut être dans le stress de il faut que je sache, il faut que je trouve, il faut que je choisisse, il faut que. Et puis on peut être dans le lâcher prise de je sais pas. Peut-être je vais le faire, peut-être je vais pas le faire, j'en sais rien. C'est différent. Ça te parle ce que je dis ou pas? Mais ce je sais pas, il est tranquille, toi, il reste avec, quoi. Je sais pas, mais oui, tu sais pas. Au moins, déjà, tu te tortures plus. C'est ok, quoi. Quoi qu'il choisisse, enfin, quoi qu'il, quel que soit le choix qui se fait, c'est ok. Pardon?
Je suis complètement d'accord. Ouais.
Que c'est aussi ça, cette liberté, c'est ce lâcher prise. Il n'y a pas le conditionnement, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ce corps survive le plus longtemps possible, quelles qu'en soient les conditions, ça s'effondre. C'est pas grave si cet organisme meurt demain, c'est aucune espèce d'importance. C'est pas grave si ton organisme est malade. Il l'est. C'est pas d'importance. C'est pas grave qu'il y ait des douleurs. Il y en a tout le temps dans ce corps.
C'est pas grave.
Ça enlève rien à ce que je suis, à la joie d'être. Rien, rien, rien.
Je parle de moi. S'il y a des douleurs.
Je parle de moi.
Ah oui. Ouais. Moi, s'il y a des douleurs, je ne suis pas heureuse.
C'est pour moi.
Bah oui, mais c'est ce qui se vit là.
Et les autres. C'est-à-dire, c'est pas grave si tu n'es pas en bonheur, mais si tu as des enfants qui ont besoin de toi. Bien sûr, l'univers prendra soin d'eux, mais.
Alors, peut-être tu ne mourras pas et peut-être tu mourras. De toute façon, ce n'est pas en ton pouvoir de gérer ça. Ouais. Donc.
On peut se dire, je reste en vie avec des peurs qui sont toujours là. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants?
Mais vaut mourir, tu ne leur transmets pas mes peurs. Il y a l'idée qu'ils ont besoin.
Oui.
Peut-être qu'ils ont besoin. On ne peut pas dire qu'un enfant a besoin de ses parents, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il n'en a pas besoin, il va quand même survivre. Et évidemment, mais la question ne se pose pas en ces termes-là. En fait, les questions s'effondrent, ce genre de problème s'effondre. Ce qui arrive, arrive. C'est ça la différence. C'est juste tranquille avec ce qui se passe. Je suis tranquille avec les douleurs dans le corps, je suis tranquille avec la maladie dans le corps, je suis tranquille avec la mort dans le corps. Ça n'a pas d'importance, hein. Je ne peux pas le dire autrement. Ça ne retire rien à la joie que je suis. Ça ne l'altère en rien. Évidemment, la douleur fatigue le corps. Évidemment que ce corps est beaucoup plus fatigué qu'il ne devrait l'être à son âge s'il n'y avait pas de douleur. Et alors ?
On est tous bien d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps, que je vais dire complètement. La seule difficulté, c'est que c'est pas intégré.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que c'est pas complètement vécu. La preuve, c'est que là, présentément, je veux dire, ce stress, celui-là ou un autre, empêche la joie d'être.
Non. occupée, cette joie.
Oui, elle l'est, mais je ne ressens
pas. Tu n'en fais pas l'expérience.
Je n'en fais pas l'expérience.
Voilà. Tiens, mais tu n'as pas besoin d'en faire l'expérience pour l'être. Et ce n'est pas le stress qui t'empêche d'en faire l'expérience, c'est le refus du stress. Tu refuses que la situation soit comme elle est. Tu refuses de ne pas savoir. Tu refuses d'avoir peur et d'être vraiment avec la peur, de goûter la peur. Comme je disais tout à l'heure, c'est marrant la peur. Quand la peur me saisit, mais moi, ça, sincèrement, ça me fait rire. C'est amusant d'avoir peur. C'est drôle quelque part. Parce que j'ai plus peur de la peur.
Oui, voilà, parce que tu as passé à atteint ce niveau d'éveil qui permet de. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis différent de toi à ce moment-là? C'est juste.
Les pensées crues. Uniquement des pensées crues. Il n'y a pas d'autre différence. Pourquoi Christophe Colomb n'avait-il pas peur de tomber au bout du monde et pourquoi les marins avaient-ils peur? Parce qu'ils croyaient que la Terre était plate et qu'il y avait un trou au bout. Et lui pensait qu'elle était ronde et qu'il ne pouvait pas tomber. C'est la seule différence. Il n'y en a pas d'autre.
Et il s'est attaché à une croyance.
Ben, sauf que il y en avait quand même qui avaient expliqué pourquoi elle était ronde et comment ça se faisait qu'elle était ronde.
Mais il y a cru.
Oui, on peut dire ça. Sauf que là, ce qui se passe ici, c'est à titre d'exemple, je donne ça, les croyances se sont effondrées. À partir du moment où les croyances s'effondrent, la réalité apparaît telle qu'elle est, quoi, c'est tout. C'est comme dans les trois au Père Noël. Ça, croire au Père Noël conditionne notre expérience de Noël. On croit que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux.
Non, mais est-ce que c'est pas l'innocence, justement, quelque part? Il y a le fait d'être innocent.
Oui, ok, ben c'est comme de croire au Père Fouettard. Est-ce que tu as encore parlé d'innocence?
Mais c'est mieux de croire au Père Noël.
Oui, mais le problème, c'est que les pensées crues, quand les pensées ont l'habitude d'être prises pour réelles, d'être prises pour la vérité, qu'elles sont crues de façon quasi automatique, aussi les pensées désagréables que les pensées désagréables sont crues de façon automatique. Et puis peut-être qu'on peut croire des pensées parce qu'elles sont agréables. Ah, il m'aime, qu'est-ce que c'est bon et je l'aime, ça y est, c'est l'homme de ma vie. 3-6 semaines après, ou 3 mois plus tard, ou 10 ans après, ah, il m'a jamais aimé, pas comme je croyais qu'il était. C'est basé, c'est sur des pensées crues. Un jour, on en paye le prix. Parce que quand ça s'effondre.
Mais ça devait se passer comme ça.
Bah oui! Mais c'est bien pour ça que je peux garder le sourire, c'est de toute façon, ben oui, ça ne pouvait pas être autrement. Mais c'est pas grave, parce que ça ne change rien à ce que tu es en amont de l'expérience que tu fais. Tu ne peux pas ne pas être ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas être la paix, la joie, l'amour, la sérénité, le calme, etc., etc. Tu ne peux pas ne pas l'être. Et tu n'as pas besoin d'en faire l'expérience pour l'être. Tu l'es de toute façon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le soulagement que ça peut apporter d'arrêter de chercher à faire l'expérience de ce que l'on est. D'arrêter de chercher à développer une qualité particulière. C'est d'arrêter de chercher. En fait, quand on arrête de chercher, on tombe naturellement dedans. Comme je disais tout à l'heure, quoi. Et si tu ne pouvais pas penser, j'aimerais tant que ce soit autrement. Ah ben, c'est naturellement plus calme. Dès qu'on arrête de croire aux pensées, naturellement, ce que je suis devient beaucoup plus conscient, se révèle, enfin, se dévoile, est dévoilé. C'est que des mots, hein, ça ne veut rien dire. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est juste voilé par des pensées crues. C'est tout. Et alors, quand il y a une pensée, ça va être grave si, ça crée de la peur. Et puis, qu'il se rajoute une autre pensée, Oh là là, c'est terrible, j'ai peur. Puis ça rajoute une autre pensée. Il faudrait que j'arrête d'avoir peur. Ça devient l'enfer. C'est des pensées rajoutées sur des pensées qui sont toutes crues et qui créent la souffrance. Pas de pensée crue, pas de souffrance.
Est-ce que ça a du sens de chercher à analyser ses pensées? D'où vient cette pensée
et pour d'où est-ce qu'elles viennent les pensées? Elles apparaissent.
Oui, mais par rapport au conditionnement, si conditionnement,
pas la peine.
D'avoir peur de chacun.
Pas la peine, trop d'efforts. Juste voir que ce ne sont que des pensées. Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont vraies? Qu'est-ce qu'elles créent dans ma vie?
Si par exemple il y a une situation récurrente, est-ce que c'est pas intéressant d'aller voir pourquoi?
Pourquoi non situation.
Et quelle est la pensée à l'origine? Le conditionnement à l'origine de ça?
Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il y a seulement. Mais encore une fois, c'est que des mots, besoin. Que le regard se pose dessus. Lorsque le regard se pose sur ce qui se passe, alors les pensées crues à l'origine de ce trouble sont vues.
Instantanément.
Pas instantanément. Parfois, il faut un peu de temps. Et lorsque le regard continue à se poser là-dessus, alors ces pensées sont vues comme fallacieuses, comme n'étant pas des vérités, comme n'ayant pas besoin d'être crues. Et alors, c'est comme une sensation dans le corps. Pourquoi est-ce qu'on bouge le corps le plus souvent? Parce qu'on a une gêne quelque part, on sent un truc, alors on a un geste, on est mal assis, on se déplace. Enfin, le corps a juste envie d'être dans une autre position, parce que le point d'appui fatigue, alors on va changer le point d'appui. Enfin, etc. Ça se fait naturellement. T'en fais pas toute une histoire. Les pensées, c'est pareil, elles apparaissent naturellement. Et si on n'en fait pas une histoire, elles passent. Si on en fait une histoire, si jamais ça s'agrippe, si jamais elles sont prises pour vrai, pour réel, pour disant quelque chose à propos de la vérité et du monde, de la vie, de l'expérience, ça devient catastrophique, quoi. Ça devient une croyance. Qui va conditionner nos actes, nos pensées, enfin les pensées, les actes, les choix, enfin, etc. Et lorsque le regard se pose dessus, que c'est vu qu'on n'est en qu'une pensée qui a besoin d'être crue et qu'en plus elle est fausse, bah, elle passe. Comme elle aurait dû faire, enfin comme elle l'aurait fait si elle n'avait jamais été saisie. Et alors le système s'effondre, puisque c'est plus tenu par la pensée. Mais c'est un effet secondaire du regard. On ne cherche pas à dénouer les choses. Simplement, le regard se pose dessus, par sa magie propre, les choses se dénouent. Le lâcher-prise survient.
Donc, tout est dans ce regard.
Oui, tu es le regard.
Capacité.
Tu es regard, on pourrait dire tu es l'écoute, hein, pour ceux qui préfèrent l'écoute.
C'est cette capacité d'être dans le regard qui fait la
différence. Tu es le regard. Tu n'as pas à développer la capacité d'être dans le regard. Simplement, nous sommes tellement happés par les choses du monde qu'on oublie. C'est aussi pour ça que ici, ça répète en boucle, regarde. Mais c'est pas une injonction qui s'adresse à un moi, il n'y en a pas. C'est le regard qui s'adresse au regard, parce qu'il faut bien mettre des mots sur les choses. Simplement, on est conditionné depuis la petite enfance, et puis, enfin, on est conditionné, et il y a une tendance naturelle à être capté par l'expérience, par les sensations, les perceptions, les pensées, et à croire tout ça vrai.
La fascination.
Oui, on est fasciné. Ce qui est fasciné par sa création, par sa manifestation. Exactement, on est fasciné. Alors. Ça se saisit. Tout. C'est juste un mouvement. Et le regard, c'est. Oh la vache, il y a fascination. Ah oui, il y a fascination. Ah non, il y a fascination. Ah oui, il y a fascination. Ouf. Puis des fois, c'est renouveau fascinant. Oui, mais ce coup-ci, ça devient un jeu. Ah tiens, si on peut laisser prendre, c'est plus un problème.
Il n'y a pas forcément, moi j'ai pas forcément des pensées.
Franchement, ce truc qui s'arrête tout seul au bout d'un certain temps, semble-t-il. C'est la première fois que je m'en sers, je me l'ai offert.
Ah.
Quelqu'un qui était là la dernière fois, qui justement, la réaction s'est faite en grande partie là, et puis après, quelques jours plus tard, dans un grand magasin. Qui travaille dans l'audio vidéo, puis je n'ai rien demandé de m'envoyer ça.
Alors je m'en sers. Pardon.
Je veux dire, on peut avoir un sentiment d'angoisse, une sensation d'angoisse, un sentiment de pensée, sans savoir pourquoi. Tout d'un coup, elle.
Ah oui.
Il n'y a pas eu de pensée, il n'y a pas eu forcément.
Oui, 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 il peut très bien. Alors si c'est une angoisse. Ou bien il y a un phénomène existentiel particulier qui se produit et qui crée plus une peur qu'une angoisse. Mais pourquoi pas une angoisse? Et alors, il y a une situation. Il y a un lion qui rugit en face de toi, il n'y a pas de barrière entre toi et lui. Ok. Tu vois? Là, il y a une, effectivement, le corps se contracte, il y a une décharge d'adrénaline, etc. Parce que l'instinct de survie. Il joue. Et là, oui, et l'angoisse.
Mais quelquefois, on ne peut pas l'expliquer.
Le reste du temps, même si on ne l'explique pas, il y a une pensée, même si elle est inconsciente. Il y a plein de pensées inconscientes. Plein de pensées inconscientes qui nous gouvernent. Mais n'en faites pas un drame. Il y a une angoisse, n'en faites pas un drame. Il y a une angoisse. Ah, tiens, il y a une angoisse. C'est intéressant.
Non, je préfère pas.
C'est ça, c'est là où ça devient un drame. C'est la pensée qui vient se rajouter. Je préférerais que ce soit autrement que comme c'est. Et ça, ça vient enfermer le système. Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne peux plus être avec l'angoisse et je ne peux plus voir ce qui se passe. Alors je souffre de l'angoisse et je préférerais que ce soit autrement et c'est complètement bloqué. Et là ça va durer. Pour peu que se rajoute j'arrive jamais à rien, je m'en sors pas, je vaux rien, je suis pas digne de je sais pas quoi. Ça rajoute des couches quand même.
Oui,
petit exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qui se passe pour toi, mais tu vois, ça rajoute des couches, quoi. Ça devient des histoires très compliquées.
Oui, mais simplement. Une sensation parfois, tout d'un coup, de mal-être,
oui.
sans explication, sans pensée négative, comme ça.
Mais pourquoi l'étiqueter mal-être?
Bah parce que l'angoisse, c'est jamais mal.
Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Non, c'est une croyance. Regarde, elle est faite de quoi l'angoisse dans le corps? Quelle sensation corporelle?
Une sensation d'étouffement.
Et si tu restes avec la sensation d'avoir du mal à respirer? Parce qu'en fait, c'est juste ça. Tu n'es pas en train d'étouffer quand il y a de l'angoisse. Tu ne meurs pas à la fin, d'ailleurs. Tu vois, il y a juste une impression d'avoir du mal à respirer. Une contraction de la cage thoracique. Si tu restes avec juste cette contraction de la cage thoracique, sans rien essayer d'y changer, est-ce qu'elle est dramatique?
Oui.
En quoi est-ce qu'elle est dramatique?
Elle est dramatique.
En quoi est-ce qu'elle est dramatique? Est-ce qu'elle est très forte? Est-ce que c'est une douleur?
Elle est trop persistante tout le temps.
Elle persiste.
Voilà.
Ok. C'est-à-dire que là, il y a refus qu'elle persiste.
Il n'y a pas de raison.
Mais je te parle juste, bien sûr que si, il y a une raison, il y a une pensée crue. Je te parle juste de la sensation physique au moment où elle se produit. Parce que là, tu es dans l'idée qu'elle va persister, qu'elle persiste et que c'est tout le temps. Ça, c'est encore une pensée, mais juste la sensation physique. L'oppression dans la poitrine, oui. En elle-même. Elle est gênante, bien sûr. Mais est-ce qu'elle est dramatique? Est-ce qu'elle est vraiment forte? Est-ce qu'elle empêche, je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle empêche quoi que ce soit d'ailleurs?
Elle
n'empêche
rien.
Donc elle n'est pas dramatique. Je préfère penser qu'elle est dramatique. Ça fait pas mal, ça m'empêche rien, mais je préfère penser qu'elle est dramatique. Vas-y, fais-toi du mal.
Je voudrais être dans un lâcher-prise total.
Je voudrais, mais alors commence par lâcher-prise, je voudrais que ce soit dramatique.
Je sais, tout ce que vous êtes en train de dire, tout le monde le sait ici.
Ah, je sais pas.
Bah, si.
Je répète tout le temps, en tout cas.
Bah, si, on a tous ce film
avec. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de lâcher-prise
tous les jours
Qu'est-ce qui empêche de lâcher-prise, Odile? Qu'est-ce qui empêche de lâcher-prise?
Justement.
Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le refus. Tu refuses. Il y a dans l'idée que si j'accepte de simplement être avec la sensation physique, alors ça va durer tout le temps. Mais rien ne prouve ça. Rien ne prouve que c'est vrai. Il y a l'idée que si je ne refuse pas les choses que j'estime désagréables, alors elles vont durer. Ou bien voir, ce sera encore pire.
Il aurait fallu donner aux enfants, à la base, une autre éducation. C'est ça qui nous empêche.
On va aller tuer tous les parents. On va commencer par Joël.
Bah oui.
Mais non, mais enfin, c'est comme c'est.
Bah oui, c'est.
Mais maintenant, on n'en est plus là, maintenant, t'es une adulte.
Oui, je sais. Mais oui.
Alors. Et bien alors, qu'est-ce que t'attends pour changer tout ça? T'as été conditionné, mais rien t'empêche de te déconditionner.
Parce que pour moi, au départ, tout choix était amputation.
Mais alors, pourquoi est-ce que tu choisis de considérer dramatique la sensation d'étouffement? C'est une amputation terrible.
Oui.
Parce que tu maintiens la chose. Oui. Tu l'enfermes. Là, c'est toi qui t'amputes toute seule. Ça marche pas ce que je dis. Non, ce sur quoi je vais me attirer ton attention, c'est sur le fait qu'il y a un refus, il y a une pensée de refus, parce que l'envie c'est aussi une pensée. Il y a un refus qui est posé sur une sensation. Il y a une sensation physique d'oppression thoracique qui n'est pas si terrible que cela, qu'elle n'empêche rien. Donc elle n'est pas si terrible. Et il y a un refus de cette sensation. Et il y a un refus qu'elle dure. Et que ce refus enferme le système, empêche le changement. Ce refus, il est cautionné. Tu estimes que tu as raison de refuser ça. Me trompe?
Sans doute.
Sans doute quoi? Sans doute je me trompe?
Non, sans doute.
Ouais. Sans doute, sans aucun doute ou bien avec. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et c'est comment de voir ça?
Je sais pas encore.
Ça s'arrête quand tu veux. C'est juste. Là.
C'est parce que c'est un côté dérisoire en plus.
L'impression que j'ai, c'est que tu as peur de cesser de refuser. Tu serais trop vulnérable. Quelque chose comme ça.
vie, parce qu'avant, on veut tous, toujours tout contrôler. Enfin, moi, particulièrement.
Et qu'est-ce que tu contrôles? Pas ta respiration, déjà. Pas ton refus. Pas tes larmes. Pas ta peur. Si je vais trop loin, tu me dis stop, hein, parce que je sais que c'est chaud ce que je dis. Qu'est-ce que tu contrôles en réalité? Est-ce que c'est intéressant de vouloir contrôler? Est-ce que ça te protège?
J'ai l'impression que ça me protège.
T'as l'impression, mais en réalité.
C'est l'ego.
C'est des pensées crues qui font que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on explore ça ou est-ce que tu veux pas?
Pas spécialement.
D'accord. Non, mais c'est tout, parce que je sens que je suis à la limite de. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, donc je préfère poser la question.
C'est ça, de toute façon, à tout le monde.
T'es là pour toi, t'es pas là pour les autres, et comme dit, de toute façon, ça sert à tout le monde. Et de toute façon, on s'en fout, c'est pas le but, t'es pas là pour servir aux autres, t'es là pour toi. Mais.
Mais justement.
De quoi?
Bah, par rapport aux autres, c'est important. Les autres, c'est important.
Mais toi, toi.
Le bien-être des autres est capital.
Oui, pour moi aussi, sinon je ne serais pas là. Ouais. Et ton bien-être est d'autant plus capital que je te pose clairement la question, est-ce que tu as envie d'aller plus loin ou est-ce que tu ne veux pas aller plus loin? Là, maintenant, tout de suite.
Moi, je ne sais pas comment. Enfin, oui, certainement. S'il y a des clés.
Qu'est-ce que tu veux pour toi? Change d'angle, d'approche. Qu'est-ce que tu veux pour toi?
Qu'est-ce que je veux pour moi?
Oui.
Une paix intérieure. Surtout une paix intérieure. Et une harmonie qui de façon à rayonner vers les autres aussi.
Ok. Est-ce que la volonté de contrôler tes tentatives de contrôle vont dans le sens de ce que tu cherches pour toi, de cette paix, de cette harmonie?
Certainement pas, mais on a toujours.
Certainement pas, c'est pas une question qui. C'est pas une réponse qui me convient. C'est quand tu regardes, est-ce que ta volonté de contrôle. Ok.
Non.
Non.
Mais elle a dû être comme ça depuis.
Évidemment que c'est conditionné, évidemment que tu n'es pas né avec, je veux dire.
Voilà.
Évidemment que ça a été construit. Oui. Donc tu vois que cette volonté de contrôle t'empêche d'atteindre ce que tu cherches.
Oui.
Ouais. Donc elle n'est pas intéressante. Hein? D'accord.
Mais je pensais que c'était. Dans l'éducation reçue, que c'était une force.
Oui, est-ce que c'en est une?
Et je m'aperçois que ce n'est pas une force.
Non, exact. Exact, ce n'est pas une force.
Mais comment se défaire de tout ce passé?
Mais je n'essaie même pas. Je te le dis clairement, n'essaye même pas, c'est pas la peine. D'abord, tu n'y arriveras pas. Et ensuite, c'est pas la peine. Ici, il n'est pas question de se défaire de tout le passé et d'une volonté de contrôle qui a été conditionnée, etc. Il est question de poser le regard dessus. Écoute ce que je dis tout à l'heure. C'est le regard qui, par sa magie propre, va révéler que tout cela est fallacieux et que ça va s'effondrer. C'est l'effet secondaire. C'est un effet secondaire, l'effondrement. Et là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de voir que, ah, mais le contrôle ne, va à l'encontre du but de ce que je suis, de ce que je cherche. Ah, mais alors, c'est pas intéressant de contrôler. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu réalises que c'est pas intéressant. Même si tu ne veux pas t'en empêcher, même si ça te rassure, même si tu ne veux pas arrêter parce que tu as trop peur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un élément nouveau. Ça va? Tu respires?
Oui, hein, mais oui.
On continue?
Je voudrais être comme mon petit chien, avoir cette...
Tranquille à dormir.
Voilà. Être dans la confiance. La confiance totale. Voilà.
Tu es la confiance. Tu n'as pas besoin de l'acquérir. Tu n'as pas besoin d'être dedans, tu l'es. Même si tu ne le sais pas. N'aie pas confiance en moi ou en qui que ce soit d'autre ou en quoi que ce soit. Tu es la confiance. Et tu ne le sais pas et tu es dans la peur.
Beaucoup d'interrogations.
Oui. Il y a de la peur?
Non. 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 C'est pas vraiment de la peur que j'ai.
Il y a de l'interrogation, on se formule comment là tout de suite?
C'est toujours par ce contrôle.
Je comprends pas.
Bah, c'est toujours par le contrôle des choses ou des êtres qui m'entourent. Et même des animaux.
Qu'est-ce qui est toujours par le contrôle?
Parce que je veux, par exemple, je vais donner un exemple banal, parce que j'aime beaucoup les animaux. Donc, comme il y a des chats errants, des chats sauvages, je vais contrôler ça et je vais faire une cabane où je vais donner à manger aux chats, pas pour recevoir l'amour de ces animaux, puisqu'ils sont sauvages, mais pour essayer de les aider à passer une vie moins difficile. Voilà. C'est toujours ce contrôle des choses que je peux avoir.
Pourquoi tu appelles ça contrôle?
Parce que, comment l'appeler?
Ça pourrait être la compassion.
La compassion, oui, aussi. C'est vrai. Tu as un mot. La compassion.
Tout ça pour moi c'est mental en fait, on tira nulle part par là, tu peux en parler pendant des jours et des jours, il n'y a rien qui va être vu, en plus c'est des choses que tu connais, que tu as déjà analysées, étudiées, enfin, regardées.
Ça, c'est une petite chose. Hein.
Oui. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui se passe ici maintenant tout de suite en toi. Par exemple si tu regardes dans le corps, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps là maintenant?
Je ne vais pas dire que j'ai un total lâcher prise parce que
non, mais qu'est-ce que tu ressens? Ma question n'est pas qu'est-ce que tu ressens pas, mais qu'est-ce que tu ressens?
Toujours cette espèce de tension, d'angoisse qui fait que...
La tension, où est-ce qu'elle est? Dans le ventre. Tu parles plus de la poitrine, tu parles du ventre.
Oui, enfin, c'est...
Oui, d'accord. C'est... Donc il y a une tension dans le ventre. Reste avec la tension dans le ventre. Elle n'est pas dramatique. Pas dans les pensées, juste avec la... Pardon ?
Oui, je suis d'accord, ça.
Sans rien faire, tu vois. Tu vois, ce que je veux souligner là, c'est il y a tendance à penser que s'il se passe quelque chose de étiqueté désagréable, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. On a été conditionné comme ça aussi. Hein. En réalité, tu vois que si tu restes avec cette tension dans le ventre, ben en fait, ça s'apaise. Donc il n'y a rien à en faire. Essayer d'en faire quelque chose, c'est pas mettre fin à la tension, c'est en créer une autre. Et au bout du compte, on crée des tensions et des tensions et des tensions, et au bout du compte, forcément, on a du mal à respirer, et forcément, ça va beaucoup moins bien. Et pareil avec les pensées, quoi. Et ça s'empile, les pensées crues, les croyances, ça s'empile, et à force, on n'arrive plus à démêler tout ça, et c'est juste l'enfer, quoi. Mais en tout cas, pour moi, il est sûr et certain, sans l'ombre d'une hésitation ni de moindre doute, que ce que tu appelles angoisse est lié à des pensées crues. Un système de pensée qui est cru. Hein, et qui crée cet état de tension permanente, de vigilance, de il faut faire attention. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Cette volonté de contrôle, enfin cette tentative de contrôle qui voue à l'échec, on contrôle rien, quoi. On a l'impression de contrôler des trucs des fois, ouais. Mais à quel prix en plus ? T'imagines la tension permanente comme ça tout le temps, hein. Pff, c'est fatigant, quoi.